Nous continuons notre petite série d'études sur le thème du pardon. Alors, la dernière fois, nous avons considéré, les deux dernières fois, nous avons considéré la responsabilité, que le pardon était une responsabilité partagée, n'est-ce pas ? On avait dit que je reprends mes notes, hein, qu'il y avait une responsabilité que l'on voit dans la Bible qui repose à la fois sur celui qui est offensé et sur celui qui a offensé, d'accord ? Parce que dans une situation on doit demander pas, où le pardon doit régner, donc c'est qu'il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose, il y a eu offense. Et donc la responsabilité d'entreprendre la réconciliation est sur les deux, mais aussi la Bible parle de celui qui est offensé en disant qu'il doit... Si quelqu'un a quelque chose contre toi, tu vas. Donc il y a une responsabilité de prendre l'initiative, il y a une responsabilité d'être animé d'une bonne disposition aussi à pardonner. Et c'est ce que disait Luc 17, 3, 4, qui dit « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, tu lui pardonnes. » Donc ça veut dire qu'on doit avoir cette attitude dans laquelle on est toujours prêt à pardonner. On avait vu aussi qu'il y avait la responsabilité, voilà, d'être quand même brisé par cette relation qui est rompue, hein, ne pas faire comme si c'était rien. Et puis aussi la responsabilité de ne pas insister en général sur sa blessure. Ce qu'on a tendance souvent à faire, c'est que l'on insiste sur sa blessure. On peut plus que sur... on est plus attristé parce qu'on est blessé que parce qu'il y a une relation qui est aussi quand même quelque part rompue. Et puis, on avait parlé aussi la dernière fois de la responsabilité de l'offenseur, d'accord ? Et on avait dit qu'une responsabilité qui paraît quand même évidente dans l'Écriture, c'est ce que Jésus dit en Luc, chapitre 17, verset 3-4, où il dit que si ton frère a péché... contre toi, donc tu dois le reprendre, hein. Luc 17, je lis, hein, il dit, verset 3, dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, s'il se repent, pardonne-lui, et s'il a péché contre toi 7 fois dans le jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, eh bien, tu lui pardonneras. Aussi, d'accord. Donc, il y a cette responsabilité qui est là et que Jésus souligne, qui est la responsabilité de la part de l'offenseur de se repentir. Hein? Et c'est ça qu'on a voulu souligner. Alors, ça avait généré, bien sûr, un petit peu de discussion parce que dans ce texte, Jésus semble dire que le pardon. La repentance est nécessaire aussi au pardon, parce qu'il dit s'il a péché, tu le reprends, et s'il se repent, tu lui pardonnes. Alors une question qui était venue, c'est ça qu'on a. Le but était de montrer que la responsabilité de l'offenseur, c'est de se repentir, d'accord. Mais c'est vrai que ça soulève une question. Celui qui est offensé, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il doit attendre que quelqu'un, que l'offenseur se repente pour qu'il puisse lui pardonner ? Tout dépend comment on considère le pardon. Alors, c'est vrai que si on pense le pardon uniquement comme quelque chose que je ressens, d'accord ? Une animosité, une haine, une amertume que je ressens, il ne faut pas qu'on soit dans cette attitude. Il faut qu'avec l'aide de Dieu, on sorte de cette attitude, de cette haine contre quelqu'un, puisque la Bible nous demande d'aimer même nos ennemis, d'accord ? En plus, donc, si c'est un frère, je dois bien sûr l'aimer. Mais en même temps, la Bible dit que la responsabilité de l'offensé, on l'a vu il y a deux mardis, c'est de prendre aussi l'initiative et de rechercher, de provoquer quelque part la repentance chez l'autre aussi. Donc ça veut dire que cette repentance, elle est quand même nécessaire aussi dans l'approche du pardon, dans le processus du pardon. Hein. C'est-à-dire, c'est même la responsabilité de l'offensé de faire en sorte que l'offenseur puisse se repentir. Donc, si on dit, par exemple, quelque chose comme « il a péché contre moi, mais ce n'est pas grave, je lui pardonne. » Alors, si parce qu'il m'a regardé de travers, je dis ça, c'est une chose. Oui, bon, évidemment. Mais s'il a fait quelque chose, on disait la dernière fois, si quelqu'un fait quelque chose qui rompt une relation, qui amène une tristesse, des blessures, etc., si je dis « bon, il m'a blessé, mais ce n'est pas grave, je lui pardonne. » Mais en fait, je me soustrais quelque part à ce que Dieu me demande, parce qu'il me demande de reprendre, c'est-à-dire de faire connaître à l'autre qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct. D'accord ? Quand c'est vraiment pas correct, messieurs, on s'amuse pas non plus. Donc quelque part, si je le fais, la Bible dit que c'est pour provoquer la repentance de l'autre. Ce que Jésus semble dire ici. Tu dis, ton frère, qu'est-ce que tu fais ? Tu le reprends. Et quand tu le reprends, s'il se repent, alors tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes. Alors, bien sûr, la personne peut refuser cette approche. Elle peut se rebiffer contre cela. D'accord ? Alors, je suis blessé, je dois demander à Dieu la grâce, hein, je ne dois pas chercher à me venger de 1. Ça, c'est interdit, hein, la Bible dit. Hein, je dois faire comme Jésus faisait. Jésus, on l'a lu la dernière fois, dimanche dans 1 Pierre chapitre 2, verset 23, où il dit que lui, quand il était maltraité, menacé, il ne rendait point, il ne se vengeait point lui-même, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. D'accord ? Et c'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes offensés. Nous devons nous remettre notre âme au fidèle Créateur. Nous devons nous remettre à Dieu, demander de nous donner des sentiments, des sentiments qui le glorifient à l'égard de cette personne. Si c'est ce que j'appelle pardonner, entre guillemets, alors, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est bien cela, à mon sens, ce que je pose comme question, est-ce que c'est bien cela, pardonner ? Puisque Jésus dit ici, tu reprends, etc. Si pour moi pardonner, c'est ne plus revenir sur la faute, oui, d'accord. C'est vrai que la Bible, il y a ce sens-là dans le sens de pardonner. Mais j'étais en train de penser à quelque chose en venant dans la voie tout à l'heure. Si je dis que quelqu'un m'a offensé, par exemple, et cette personne ne m'a pas offensé en réalité. Ça peut arriver hein, que je pense que quelqu'un m'a offensé, mais la personne ne m'a pas offensé. Ça arrive des fois. Et je dis, bon, mais c'est pas grave, je lui pardonne. En fait, je lui pardonne une faute fictive, une faute qui n'existe que dans ma tête. Une faute qui n'existe que dans ma pensée. Et comment est-ce que je peux, si je ne dis pas à la personne, par exemple, écoute, vraiment, dans ce que tu as dit, tu m'as blessé, imaginons hein, que ce soit quelque chose, la personne n'a pas dit, mais je pensais que c'était contre moi, enfin, je ne sais pas, il y a tout un truc, je dis, elle m'a blessé. Je peux aller dire à quelqu'un d'autre, ouais, elle m'a blessé, alors que ce n'était probablement pas vrai. Il faut quand même que je voie avec cette personne, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as dit cela, est-ce qu'il y avait un problème, etc., etc. Et donc, quelque part, je suis déjà en train de lui demander soit de reconnaître sa faute, ou soit de me dire que ce n'était pas une faute, etc. Sinon, je me mets à pardonner des choses qui n'existent, même pas où je dis que je pardonne des choses, ou alors j'attache à la personne une faute qu'elle n'a même pas commise. Donc, voyez, le fait de dire simplement, j'essaie d'expliquer, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais le fait de dire simplement, j'ai pas besoin qu'on me demande pardon, je n'ai pas besoin de repentance. Moi, elle a fait ça, je passe par-dessus. Si c'est ce que j'appelle pardonner, si c'est ce que vous appelez, qu'on appelle pardonner, c'est pas comme cela qu'on voit la chose dans la Bible. Okay. Maintenant, si on dit, on doit être prêt à pardonner à quelqu'un, même si la personne ne veut rien entendre, oui, c'est vrai. On ne va pas attendre qu'on peut dire, voilà, je suis disposé à le faire. Si un jour elle vient et elle demande, ben, Voilà, je ne vais pas lui dire je t'ai déjà pardonné parce qu'elle va dire bah, pourquoi je suis venu alors? Hein? Donc, mais je suis disposé, je suis ouvert pour l'accueillir. Mon cœur n'est pas fermé. Voilà, je suis prêt à le faire. D'accord? Donc, dans ce sens-là, on peut dire oui, si on appelle ça pardon, oui, quelque part, on est prêt, on est disposé à pardonner de cette manière-là. Alors, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et peut-être que ce qui serait important de faire, c'est d'essayer de définir qu'est-ce que le pardon, en fait. D'accord? Pour vous, je vous pose la question, c'est quoi le pardon? Si on vous dit, mais c'est quoi pardonner à quelqu'un? Qu'est-ce que vous entendez par là, par ça? Vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit? Un mot, un verbe, une... Ne pas en vouloir à quelqu'un, d'accord? Oui? Effacer quelque chose, d'accord? Donc une offense, par exemple, d'accord? Ne plus tenir rigueur, d'accord? Chercher la paix, d'accord? Ok, c'est bien tout ça. J'ai juste fait, j'ai pris le dictionnaire biblique, hein, vous pouvez faire à la maison aussi, j'ai pris le dictionnaire biblique et puis j'essaie de trouver un peu ce qu'on trouve sur la définition du pardon. Hein. Donc je vous dis ce que j'ai relevé. Alors on trouve bien sûr, quels sont les mots, on essaie de comprendre quels sont les mots qui définissent le pardon. Donc dans l'Ancien Testament il y en a et aussi dans le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, il semble qu'il y ait principalement trois mots pour désigner le pardon. Alors, je ne vais pas forcément les prononcer parce que je ne pourrais pas forcément bien les prononcer, mais dans Ésaïe 6, 7, hein, donc, il y a un mot qui parfois est utilisé pour pardon, mais qui évoque l'expiation, par exemple, qui peut évoquer l'expiation, le pardon des péchés. Il y a un autre mot, alors le premier c'était Kiper, le deuxième c'est Nasa. Et littéralement, NASA, c'est lever, élever ou porter. Hein. Donc, c'est un terme qui parle des conséquences du péché et du châtiment qui résulte et que parfois quelqu'un d'autre pourrait porter. Donc, on peut trouver ce sens-là dans plusieurs versets, Lévitique, beaucoup de versets dans le Lévitique en général, Ézéchiel 23, 35, etc. Et puis, il y a aussi un autre mot qui, lui, a le sens littéralement de remettre une dette. Hein, de remettre une dette, une faute. Par exemple, dans 1 Roi 30, lorsque Salomon prie, et puis il dit, si quelqu'un fait ceci, il vient dans cette maison, il se tourne par là, eh bien, pardonne. Tu vois, et qu'il confesse son péché, tu lui remets sa dette. Tu ne la lui imputes plus, tu ne la lui comptes pas. D'accord? Ou ne pas la remettre. Okay? Ça peut avoir les deux sens. Donc, c'est un peu le sens ici qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un mot en général qui est assez souvent utilisé et qui veut dire détacher, envoyer au loin ou remettre. Hein, d'accord? On pousse au loin les choses. Remettre une dette ou un péché. Ça a parfois aussi l'idée il est peut-être traduit parfois de rémission des péchés. Ce mot traduit donc le sens de remettre, pareil comme dans l'Ancien Testament, remettre une dette, ou de laisser et de ne point tenir compte. Dans le texte que vous avez lu ce soir, dans Matthieu chapitre 18, vous rappelez, je l'ai sous les yeux là, et le maître, il dit à son serviteur, plutôt quand le serviteur lui dit, laisse, je vais te rendre tout, verset 27, sois patient envers moi. Et la Bible dit, le maître ému de compassion de ce serviteur, il le laissa aller et lui remit sa dette. Et le terme qui est traduit par laisser aller, c'est un autre terme c'est un deuxième terme dans le Nouveau Testament qu'on trouve et qui exprime aussi le pardon, hein. C'est un mot qui veut dire relâcher. Par exemple, l'apôtre Paul l'utilise je crois que c'est pour, il me semble que c'est pour Timothée qu'il l'utilise, hein, quand il dit que Timothée, dans Hébreux, je crois que c'est dans Hébreux, je pensais l'avoir noté là, mais je ne l'ai pas noté, hein. Dans Hébreux, je crois, où il dit que Timothée pourrait être relâché. Hébreux 13, 22, quelqu'un a ça? Hébreux 13, 23, je crois. Quelqu'un a ça? Voilà. Donc le mot qui est utilisé ici par relâcher est parfois traduit ailleurs par pardon, hein. D'accord? Comme ici dans le texte qu'on vient de lire, je t'avais, voilà, il le laissa aller, il lui remit sa dette. Donc c'est quelque part comme si on avait délié quelqu'un de quelque chose, hein. On laisse repartir libre, il n'a plus, il ne porte plus la charge de quelque chose. Et puis il y a un troisième mot dans le Nouveau Testament aussi, qu'on trouve et qui a le sens littéralement de couvrir. Et l'apôtre Pierre l'utilise dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8, c'est le prochain verset que nous allons avoir en prédication, quand ça sera dans Pierre. Il dit, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et donc ce mot-là est utilisé parfois pour traduire le pardon. Donc on peut voir que avec ces mots-là, quand on parle de pardonner, il est beaucoup question de l'offense qui est commise, et puis du rapport de l'offenseur avec cette offense-là aussi. Est-ce qu'elle lui est toujours attachée? Est-ce qu'elle est couverte? Est-ce qu'on lui a enlevé? Etc. Donc ça permet de savoir que pardonner traite quelque part avec l'offense qui a été établie. Ce que vous avez dit est juste, hein? On ne va, on va, c'est comme si on va chercher à effacer, on va chercher à ne pas tenir rigueur de l'offense, on va chercher à couvrir la faute. Donc, quelque part, l'objet du litige, si j'ose dire, est celui sur lequel on va se pencher pour essayer de ne pas laisser l'offenseur avec cette charge. Okay? C'est-à-dire que du côté de l'offensé, eh bien, il faut qu'il arrive à penser à l'offenseur sans qu'il le fasse à travers la faute qu'il a commise ici. Et donc, il faut qu'il parvienne à lui remettre cette dette à l'envers. Comme dans l'histoire qu'on vient de voir ici, où il y a cet homme qui dit, sois patient envers moi, je vais tout te payer. Le maître sait exactement qu'il ne va pas tout payer. C'est pas vrai. Il ne peut pas payer une telle dette. Et il fait comme s'il n'avait pas la dette, il la lui enlève. Quand Jésus nous pardonne, c'est pareil, hein? Nous ne pouvons pas payer la dette de notre péché. Il la prend sur lui, et puis il nous rend libres. Et quelque part, celui qui pardonne, il prend la faute aussi sur lui, hein? Un peu comme l'apôtre Paul dit à Philémon, il dit, si Onésime t'a fait quelque chose, mets-le sur mon compte. Donc on prend à son compte la chose. Ça demande beaucoup. Ça coûte. On le prend, d'accord. On prend sur soi, d'accord. Mais pour ne plus regarder l'autre à travers l'offense qu'il a commise, pardon. Donc ça c'est. Je pense qu'il faut comprendre le pardon un peu comme cela, pas simplement comme le fait que mentalement j'oublie quelque chose. Mais comme le fait que quand j'aurai une relation avec cette personne, je ne tiens plus compte de ce qu'elle a fait. D'accord? Mais quand même, ça ne veut pas dire je n'en tiens plus compte dans le sens, pas je m'en fiche, hein, pas dans ce sens-là. Hein. Parfois, on est comme ça, moi je m'en fiche, il a fait ça, je ne le vois pas, c'est bon, tant pis, etc. Moi j'ai pardonné. Non. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a eu quelque chose, j'ai des blessures, je m'en remets au Seigneur et je vais chercher à avoir de bonnes dispositions à l'égard de cette personne, à l'aimer, en ne tenant pas compte de ce qu'elle a accompli. Mais puisque je vais chercher à l'aimer, il faut que j'obéisse à la parole de Dieu, je vais quand même devoir le mettre devant sa faute parce qu'elle aussi, il faut qu'elle se repente, il faut que je l'aide dans ce domaine-là. Alors, vous regardez le texte de Matthieu chapitre 18, hein, Matthieu chapitre 18, Je reviens donc sur le verset 15 où Jésus dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Bon, alors on peut penser ici en lisant ce verset que c'est bon, s'il a péché, il a fait quelque chose. Je vois dans l'église un frère qui a fait quelque chose. D'accord ? Je vais le voir. Alors, bien sûr, il y a cet aspect-là, ici. Mais on peut penser que avec la question que Pierre pose au verset 21, Pierre s'approche et il dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» D'accord ? Avec ce que Jésus dit dans Luc chapitre 17, quand il dit « Si ton frère a péché », verset 3 et verset 4, il dit « S'il a péché contre toi », je crois qu'il ajoute le « contre toi » ici, hein, donc montre que cela peut être aussi, dans ce cas, quelque chose qui existe entre deux frères, d'accord ? Un conflit qui existe, quelque chose qui existe. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est que le premier point que Jésus amène ici, c'est que un problème doit être toujours réglé. D'accord avec ça ? Parce qu'il dit quand même, on doit toujours au moins chercher à le régler, quelque part. On ne pourra pas forcément arriver. Il dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, de ton côté, tu dois tout faire pour pouvoir régler la chose. Et c'est pour ça qu'il dit, si ton frère a péché, tu vas et tu le reprends. Donc, c'est une affaire privée, d'abord, entre deux personnes. Donc Jésus veut toujours que l'on, l'Écriture veut toujours que l'on ne laisse pas traîner les choses, mais quand il y a un problème, qu'on cherche à le régler. D'accord ? Et la manière de régler, donc je reviens toujours sur ma même question, la manière de régler, ce n'est pas simplement de dire, j'ai pardonné, quand c'est une petite... Je parle des offenses qui ont quelque chose. Ce n'est pas de dire, bon, j'ai juste pardonné. C'est de faire comme Jésus dit, de faire en sorte que la situation soit réglée. Parce que des fois, on reste avec des choses que l'on suppose avoir pardonné, mais qui ne sont pas en fait réglés. Et puis, on y revient parfois au gré des circonstances, quand ça nous arrange ou pas. Donc, Jésus montre que quand il y a un problème dans l'Église, quand il y a un problème entre deux frères, le problème doit être réglé. J'en veux pour preuve ce que l'apôtre Paul dit à un frère de l'Église de Philippe concernant deux sœurs. Vous vous rappelez, Saint-Tiche et Évodie. Il dit... Dites à Saint-Tiche et dites à Évodie d'être dans un même sentiment dans le Seigneur. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans un même sentiment. Il y avait un conflit entre ces deux personnes. Et Paul dit, il faut que ça soit réglé. Parce que l'unité de l'Église en dépend. Okay, vous voyez ? Donc c'est-à-dire que quand il y a un souci, il faut forcément le régler. Et s'il faut forcément le régler, il faut confronter la chose. Et donc le pardon consiste quelque part à ne pas simplement mentalement penser qu'on a pardonné, mais aussi quand même à être dans une démarche événementielle, si j'ose dire. Il y a un événement qui se passe, on va se déplacer, on va voir, on va rencontrer, on va appeler, on va téléphoner, pour obéir à ce que la parole de Dieu nous dit ici. Donc le problème, d'après ce qu'on voit dans Matthieu 15, doit être réglé. Le traitement du problème doit rester aussi privé que possible. OK ? Quand on a des différends, pour régler la chose, on doit rester aussi privé que possible. Ici, quand Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous n'êtes que deux. Donc, il faut essayer de régler la chose de manière aussi privée que possible. Quand il y a des demandes de pardon, il faut essayer de faire ça le plus. On ne prend pas le WhatsApp pour envoyer à tout le monde, etc., des choses. Franchement, quand on est offensé, parfois, comment ça se passe le plus souvent ? Soyons honnêtes. On dit aux autres. Très bien, Janine. On a tendance, c'est ce qu'on fait. On prend le téléphone. Tu ne sais pas ce qu'Albert m'a dit l'autre jour ? On dit aux autres. Après, on dit, on a pardonné, mais on a déjà dispatché. Et puis après, L'autre, s'il n'arrive pas trop à tenir le truc, c'est une crousty news, hein. Il va dire, ouais, je vais quand même... Tu sais ce qu'un tel m'a dit, que Albert a dit, hein? Oh, peut-être Albert, il a probablement mal fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus privé possible. C'est ce que Jésus dit ici, hein. Et certainement, il dit, s'il refuse d'écouter, il n'a pas dit s'il n'écoute pas. Il dit, s'il refuse d'écouter, ça veut dire que tu as essayé une fois, tu as essayé deux fois, tu as essayé trois fois. Après, tu t'es dit, bon, je me suis mal pris, ce n'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Peut-être j'aurais dû employer tel mot. Tu as fait quatre fois avec d'autres mots. Mais il y a manifestement une volonté de ne pas faire de progrès là-dessus, de ne pas reconnaître une faute ou de ne pas se laisser convaincre par quelque chose. Alors, si c'est, ça veut dire que c'est un réel problème, Jésus dit à ce moment-là, il faut passer à une étape supérieure. Mais on ne passe pas à l'étape supérieure dans la seconde qui vient, hein, quand on a commencé. Parfois, ça peut prendre du temps entre les deux étapes, parce qu'on aura tout essayé, on a tout fait. Avec amour, on a prié, on a tout fait. Jésus dit à ce moment-là, tu prends deux ou trois témoins avec toi pour que, voilà, peut-être que ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont peut-être dire la chose un peu autrement et peut-être que la personne comprendra ou elle verra que, bon, voilà, hein, il y a d'autres personnes qui sont au courant, donc ça peut peut-être faire un électrochoc, j'en sais rien. Jésus est sage. Quand il le dit, c'est parce qu'il sait que c'est comme ça que ça doit être fait. Donc. Et puis, il dit, s'il n'écoute pas ces personnes non plus, qu'est-ce que tu fais? S'il refuse, encore là, tu passes à l'étape supérieure, tu le dis à l'église. Parce que surtout si c'est quelque chose qui se passe dans l'église, hein, où la personne refuse, etc., etc., hein, on a connu des situations, c'est pas ici, hein, mais quand j'étais aux Antilles, des situations de parfois de personnes qui vivaient d'une manière qui était vraiment, les relations avec l'épouse étaient vraiment mais exécrables, et parfois elle a fallu confronter ces personnes, c'était pas du tout évident, et les personnes ne voulaient pas, d'accord. Et alors bien sûr ça commence avec une personne, deux personnes, et après à un moment donné, ben obligé d'arriver au fait de le dire à l'Église, parce que c'est ce que le Seigneur commande. On ne va pas tout de suite à l'Église, on ne va pas tout de suite avec deux ou trois témoins, mais il y a des étapes pour faire les choses. Ça, c'est ce que Jésus souligne ici. Donc, on a dit que le problème doit être réglé, c'est ça que Jésus veut dire, parce que toutes ces étapes montrent que Dieu veut qu'il y ait un règlement de la situation. Donc, un problème, il faut le régler. Deuxièmement, la manière de faire montre qu'il faut être aussi privé que possible. Et le but qu'on cherche, c'est que ça soit réglé dans le privé. Et quand c'est là, ouf, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, troisièmement, Jésus montre ici que l'objectif, c'est quoi l'objectif? C'est la restauration. Ce n'est pas de descendre la personne, mais c'est de la restaurer. Et c'est aussi l'objectif du pardon, hein. Le pardon, on va le voir une autre fois, mais le pardon, normalement, il vise à quoi? Qu'est-ce qui se passe quand deux personnes ont eu un différend? Qu'est-ce qui est rompu? La relation, et on a besoin de réconciliation. Alors, le pardon, ce n'est pas la réconciliation. Le pardon, il conduit à la réconciliation. Parfois, la réconciliation, ça met quand même un petit peu de temps. Quand il y a eu beaucoup de dégâts de causer, la réconciliation, ça met du temps, hein. On ne se retrouve pas tout de suite le lendemain dans un super restaurant en train de manger, pas forcément, hein. Ça va prendre un petit peu de temps peut-être, mais le pardon, il vise à ça. Ici, la discipline que Jésus souligne ici concernant l'Église vise aussi à la restauration. Donc ça, c'est important quand on pense au pardon de penser comme ça. Je dois faire en sorte que la chose soit la plus privée possible. Okay? Je dois faire aussi en sorte que le problème soit réglé. Mon but, c'est que le problème soit réglé. C'est que je ne reste pas dans ce différend avec cette personne par rapport à une parole ou à quelque chose qui a été dit. Il faut qu'on arrive à se pardonner. Et parfois, dans certaines situations, les deux ont un peu tort, hein. D'accord ? Il n'y a pas un offensé qui est que offensé et puis un offenseur qui est que offenseur. Parfois, l'offensé parce qu'il est offensé, va offenser l'offenseur. Et puis les deux se retrouvent à la fois offensés et offenseurs. Donc ça devient compliqué, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, que Jésus dit qu'il faut une demande de pardon mutuelle. On se pardonne réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous aussi réciproquement. Et puis, je saute, parce que le temps passe, pour dire que le pardon aussi, quand on regarde la suite de ce texte ici, hein, lorsque Pierre s'approche de Jésus, puis il dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et pour lui, c'était énorme, hein, 7 fois. Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. » Ce qui fait à peu près, qui fait précisément 490 fois, d'accord ? Et donc, dans ce que Jésus dit ici, il ne donne pas une limite, hein. On avait regardé ce texte il y a quelque temps déjà, il ne donne pas une limite, mais il est en train de dire que le pardon, hein, la disposition à pardonner, doit être sans limite. Je dois être toujours prêt à pardonner. Comme j'ai entendu quelqu'un qui disait ça, il disait que quand ton frère a péché contre toi une fois, et qu'il vient et te demande pardon, tu lui pardonnes. Okay. Et puis, quelques temps après, il pêche, pratiquement de la même manière, contre toi. Il vient te demander pardon. Tu lui dis, hé, ça fait 2 là. Ça veut dire que tu comptes la première. Donc, tu n'as pas pardonné. Parce qu'on a dit que pardonner, c'est ne plus compter, etc. Vous voyez comment c'est difficile, hein? On dit, hop, ça fait 2. Alors, quand Jésus dit cela ici, il dit, en fait, c'est comme si à chaque fois, c'est la première fois qu'il avait péché contre toi. Donc, tu dois être toujours dans cette disposition où tu pardonnes. Il faut que tu sois dans cette disposition où tu pardonnes. Donc, tu demandes à Dieu la grâce de le faire, mais tu dois pardonner sans limite. Le croyant ne doit jamais cesser de pardonner. C'est ça que Jésus enseigne ici. C'est ce qu'il dit dans Luc 17, on a vu ça, chapitre 4. Chapitre 17, verset 4, où il dit « S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et qu'il revienne à toi en disant « Je me repens », eh bien, il dit « Tu lui pardonneras. » Donc ça, c'est une chose que nous devons absolument comprendre. Et donc, Jésus donne une illustration ici à Pierre, dans les versets qui suivent, et Matthieu 18, 22, et puis jusqu'à 34, où il montre pourquoi est-ce qu'on doit pardonner de manière incessante. Mais parce que vous avez été pardonné, mais d'une dette énorme, énorme. Et il montre que la dette que nous avons qui nous a été enlevée par Dieu, par rapport à la dette que nous des fautes, des offenses que nous recevons, ça n'a aucune commune mesure. Quelqu'un a fait le calcul un peu, c'est un rapport de 1 à 600 000 à peu près ici, hein, dans ce que Jésus dit. C'est pour montrer l'écart qu'il y a entre ce premier serviteur à qui le maître a pardonné, d'accord ? Il pense qu'il va pouvoir payer, mais il ne peut rien payer. Le maître lui enlève sa dette, il lui pardonne, d'accord ? Et donc il est dans une attitude de pseudo-repentance, parce qu'il dit « Aie pitié envers moi, attends, je vais le faire. » Il reconnaît qu'il a une dette, mais il est incapable de la payer. D'accord ? Et puis, l'autre qui lui doit c'était quelque chose comme 60 millions d'euros, et puis l'autre, c'est 100 euros. Quoi, hein. Voilà à peu près le rapport qu'il y avait là. Et donc, lui, il ne pardonne pas à son petit serviteur. Et Jésus dit, attention, là, il y a un problème dans cette manière de voir les choses, c'est que vous devez toujours pardonner en ayant à l'esprit le pardon que vous avez reçu de la part de Dieu. Si vous pensez que c'est trop dur de pardonner à quelqu'un, pensez à comment Christ vous a pardonné, de quelle dette il s'est chargé. D'accord ? Qu'il a pris votre dette sur lui. Quel était le poids de cette dette ? C'est votre péché, c'est votre jugement. vous ne méritiez que l'enfer. Il faut penser à toutes ces choses-là lorsque l'on a en face de soi quelqu'un qui nous demande, par exemple, de pardonner et à qui on dit non. Parce que ça arrive parfois. On se pose la question, est-ce que je dois pardonner quand on, si la personne ne se repent pas? Mais parfois, la personne se repent. Et on dit non. Ouais. C'est dur, hein? Le livre de Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous l'avez lu, Dieu en enfer. Elle raconte, je crois que j'ai lu ça, je sais pas, dans ce livre que le bourreau de sa sœur, il était été enfermé dans les camps de concentration, le bourreau de sa sœur pendant la Seconde Guerre mondiale, le bourreau de sa sœur, il a fait tuer sa sœur. Un jour, il s'est converti. Et elle donnait des conférences après, voilà, après la libération, etc. Et cet homme, un jour, est venu assister à la conférence. Et il s'est avancé. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus si elle avait reconnu ou pas, ou s'il s'est présenté après. Et pour lui demander pardon. On pourrait penser qu'elle avait dit dans sa tête, je pardonne Seigneur. Certainement, c'est une chrétienne, je pardonne à toutes ces personnes. Peut-être qu'elle avait-elle dit. Mais quand elle a vu cet homme venir en face d'elle, et elle dit qu'il lui a tendu la main pour lui demander pardon. Elle a dit, je ne pouvais pas. Ma main restait collée contre... Je ne pouvais pas. C'était impossible. Je ne pouvais pas. Le bourreau de ma sœur, qui l'a torturée, qui l'a fait mourir, c'était trop pour elle. Quoi, bon. Et je crois qu'il dit... Elle a prié que Dieu lui fasse grâce pour qu'elle puisse décoller sa main et la tendre vers la sienne. Mais le pardon, c'est un événement, je crois. Le pardon, c'est un événement. On peut pardonner facilement dans sa tête, mais je pense que l'on se rend compte qu'on a pardonné vraiment lorsque le repentant, la personne qui nous a offensés, vient dans la repentance. Et puis nous demande pardon. Quand c'est une petite faute, ça peut aller. Mais quand c'est quelque chose qui nous a causé beaucoup de blessures, c'est difficile. C'est difficile de faire le petit geste qui dit juste « Oui, je t'ai pardonné. » Vous voyez ? Et c'est pour ça que je dis que voilà, la repentance, c'est quand même quelque chose qui est important de la part de l'offenseur. Et je pense que le fait que cette femme lui a donné la main, ça l'a soulagé, ça l'a déchargé. Peut-être il porte ce poids-là, même s'il est venu au Seigneur, mais il porte cette chose qu'il a commise, cette faute qu'il a commise. Et il a besoin d'être libéré de ce poids. Cette petite poignée de main l'a sans doute libéré complètement de ce poids-là. Vous voyez ? Donc, se souvenir de ce que Christ a fait, certainement, elle s'est souvenu de ça, hein, que Christ a fait. Et elle dit que même ce que cet homme a fait subir à sa sœur, je parle à sa place, je ne sais pas si elle a pas ça, mais je suppose que ça lui est de ça, même cette souffrance que cet homme a fait subir à sa sœur n'est rien à côté de la souffrance que mon péché a causé à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc c'est ainsi, verset 35 dit, c'est ainsi que mon Père, il dit, céleste, vous traitera, c'est-à-dire comme cet homme a traité son serviteur, finalement il l'a repris, il l'a remis en prison, et puis il l'a fait jusqu'à ce qu'il paye tout. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous, c'est-à-dire vous et moi, ici dans cette salle, chacun de ceux qui se déclarent être chrétiens, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc c'est un pardon qui va au-delà des mots, au-delà simplement d'un effort mental. Voilà, c'est un pardon qui va parfois à la rencontre, à la confrontation avec la personne où on va prononcer « je te pardonne » sous la repentance de quelqu'un. Vous comprenez ça un peu ? Je crois que c'est ça qui est en jeu ici. Donc le Seigneur nous, nous, quand on parle de pardon, de pardon, ça va jusque-là. C'est le fait d'ôter quelque chose à quelqu'un, le poids à quelqu'un. Et pratiquement le prendre un peu sur soi, parce qu'on garde la blessure de cette femme, elle est restée, hein. Elle a pensé à cela. Donc à chaque fois, c'est le Seigneur seulement qui est capable d'enlever cette blessure. Donc il faut qu'elle s'en remette constamment au Seigneur pour être pensée de cette blessure. Mais elle a dû faire quand même ce geste et accepter vraiment dans un événement quelque part, hein, de pardonner à cet homme. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être vous avez une question. Je ne fais pas ça souvent, mais peut-être que bon, c'est un thème qui est un peu qui peut-être soulève une question, je ne sais pas. La réconciliation. Voilà, c'est ce qu'on parle. On parle de la réconciliation, là. C'est pareil. Oui, on va parler de ça. Ouais. Si Dieu permet. Oui. Donc, si vous avez des questions, hein, notez vos questions. Si ce n'est pas clair ce que j'ai dit, on essaie de reprendre. Bon, honnêtement, les deux manières de considérer les choses concernant le pardon, par le fait de dire qu'on doit pardonner constamment, tout le temps, de manière unilatérale, sans rien attendre en retour, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui soutiennent cela aussi, de véritables enfants de Dieu aussi qui soutiennent cela aussi. D'autres qui disent, bon, ça dépend de la faute. Les petites fautes, oui, mais les fautes qui sont quand même conséquentes, ouais, ça demande à être confronté. Ça, je pense un peu comme ça, okay, aussi. Puis il y en a qui pensent que non, il faut absolument qu'il y ait toujours, 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 toujours une demande, forcément, pour pardonner. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut que celui qui a subi une offense, il soit dans la disposition de pardonner. Qu'il demande au Seigneur d'enlever cette amertume, qu'il s'en remette au Seigneur et qu'il soit toujours dans l'attitude où il aime même celui qu'il a offensé. Et il est prêt pour le jour où il vient demander quelque chose, etc. Et même, il doit même initier quelque chose pour que la réconciliation puisse se mettre en route, pour que le pardon puisse se mettre en route. Okay? Donc c'est vraiment une attitude de disposition de pardon qu'il doit avoir. Pas simplement qu'il attende que l'autre vienne, mais il doit être dans la démarche qui va aussi vers l'autre. Je parle pour celui qui est offensé. Okay? Et l'offenseur, il a la responsabilité de se repentir. De se repentir. Puisque la Bible le montre ici. Quand on pêche, si tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne. Voilà. On va prier peut-être. Seigneur, je te remercie encore pour ta parole. Et je reconnais que ça n'est pas toujours évident d'expliquer ces choses qui touchent aux relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, mais je te prie que tu nous donnes la pleine illumination de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre au fur et à mesure et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur, parce que toi, tu nous as pardonné. Tu es le modèle parfait. Nous avons en toi le modèle parfait du pardon. Et Seigneur, tu nous as aimés avant la fondation du monde, tu nous as pardonnés complètement. Et nous te remercions pour cela. Et nous te prions que tu nous aides à mettre ta parole en pratique, de chercher à la comprendre de mieux en mieux, afin de la pratiquer de mieux en mieux dans les relations que nous entretenons entre frères et sœurs, pour la gloire de ton nom. Amen.